Bon, nous reprenons la séance et je donne la parole à Manuela Carneiro da Cunha, dont l'exposé a pour titre « Lévi-Strauss et l'interface ».
Très ambigu, je le reconnais. Qui en fait me permettra de parler un petit peu du diffusionnisme de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, dans son œuvre, on peut déceler un certain diffusionnisme, en effet, quoiqu'un diffusionnisme sui generis. Il a surtout ceci de particulier, qu'il ne constitue jamais un principe d'explication. À l'inverse, il requiert une explication historique. Et que, sauf exception, il ne postule pas plus qu'il ne recherche, d'ailleurs, l'origine ou la direction des emprunts. Les mythes amérindiens, en effet, semblent se transmettre de proche en proche, et ce, dans toutes les directions. Bien entendu, tout comme il n'y a pas de version véritable d'un mythe et que toutes les versions se valent, nous le savons depuis longtemps, et qu'elles sont au même titre parties d'un ensemble, la question d'un centre de diffusion ne paraît pas, du moins en général, pouvoir même se poser. Et de même, la direction des emprunts dans un sens ou dans l'autre ne peut qu'exceptionnellement être avancée et uniquement grâce à des critères extérieurs. Ainsi, par exemple, lorsque les Cree réutilisent à leur propre fin des morceaux de contes franco-canadiens, on peut alors, mais seulement alors, raisonnablement en inférer que ceux-ci ont été empruntés par ceux-là et non l'inverse. La diffusion des mythes semble donc n'être guère plus qu'un constat que Lévi-Strauss attribue aux aléas de l'histoire et qui n'a pas de valeur explicative. Mais par ailleurs, cette diffusion est devenue, avec les mythologiques, indispensable à sa méthode. Alors qu'il scrute un mythe particulier, Lévi-Strauss fera appel pour l'éclairer non seulement à l'ethnographie spécifique à cette société, mais aussi aux mythes des peuples voisins, voire à des peuples distants, pourvu qu'amérindiens. Ce procédé, abondamment illustré dès le cru et le cuit, reparaît avec force dans les deux dernières petites mythologiques, et nulle part plus explicitement que dans Histoire de Lynx. Quant au mythe lui-même, Histoire de Lynx, c'est-à-dire le mythe de départ du livre homonyme de 1991, il revient à plusieurs reprises dans l'œuvre de Lévi-Strauss. Il est l'objet de l'un de ses cours au Collège de France en 68-69, qu'il a intitulé « Interlude, le brouillard et le vent ». Il en publie une première analyse en 1971 dans un article d'hommage à Raymond Aron. Ce même article sera repris en 1973 dans Anthropologie structurale 2 et porte le titre « Comment meurent les mythes ?». Et puis il y revient encore en 1977 dans une série de conférences dont Marie Mosée a parlé, diffusée par la CBC au Canada et publiée l'année suivante, pour la plupart uniquement en anglais, sauf une exception, sous le titre « Myth and Meaning ». Le chapitre 3, qui traite de l'histoire de Lynx, de la gémellité du vent et du brouillard, s'appelle « Hare Lips and Twins, the Splitting of a Myth ». Enfin, dans son avant-propos à « Histoire de Lynx », le dernier volet des petites mythologiques, Lévi-Strauss rappelle qu'il y a souvent fait allusion dans l'homme nu. Ce livre, écrit-il, qui n'est pas gros, a une histoire assez longue. Fin de citation. Je crois pour ma part qu'il est à plusieurs égards une somme de presque un demi-siècle de réflexion qui va de la mise en question du dualisme diamétral ou symétrique à la gémellité amérindienne et qui traite ce faisant du problème méthodologique de ce que l'on pourrait appeler une diffusion structurale. Alors, suivons sur un bout de chemin, entre, en gros, la fin des années 60 et 1991, les idées de Lévi-Strauss à ce sujet. Qu'arrive-t-il à l'interface de deux sociétés? Dès « Comment meurent les mythes », cet article dont j'ai parlé, Lévi-Strauss, qui est, je vous rappelle, de 71, Lévi-Strauss semble distinguer le passage entre groupes de sociétés partageant un même fond linguistique et culturel du passage entre familles différentes. Entre les Indiens de la rivière Thompson et leurs voisins septentrionaux, Shuswap, tous deux appartenant à la famille linguistique Salish et culturellement proches, l'histoire de Lynx passe d'un état vivace d'articulation et même de dédoublement à un état affaibli et une expression que Lévi-Strauss appelle minimale, du point de vue, précise-t-il, à la fois quantitatif et qualitatif. En revanche, dès que l'on passe des Shuswap parlant Salish à leurs voisins du Nord-Ouest, les Chilcotin, de la famille Athapascan, dont l'arrivée, dit-il, est plus récente, on franchit ce que Lévi-Strauss appelle un seuil et tout se renverse. Et là, je cite littéralement, « Le seuil formé par la frontière septentrionale de l'ère Salish a donc dû mettre un obstacle appréciable à la communication. On observe souvent, dans des cas de ce genre, c'est toujours une citation, n'est-ce pas, dans des cas de ce genre, que les systèmes mythologiques, après avoir passé par une expression minimale, retrouvent leur ampleur primitive au-delà du seuil. Mais leur image s'inverse, un peu à la façon d'un faisceau de rayons lumineux pénétrant dans une chambre noire par une ouverture ponctuelle et contraint par cet obstacle de se croiser. De sorte que la même image, vue droite au dehors, se reflète dans la chambre à l'envers. » Fin de citation. Lorsqu'en 1991, Lévi-Strauss reprend l'histoire de Lynx en considérant cette fois trois sociétés de la famille linguistique Salish, Thompson, Coeur d'Alene et Sheali, et donc ces trois d'une part, et d'autre part une société de la famille Athapascan, les mêmes Chilcotin dont on a parlé, la transformation des versions des trois premières en la dernière n'est plus simplement une inversion dans une chambre noire, mais elle se fonde plutôt sur la célèbre formule canonique. C'est elle, en effet, et la double torsion qu'elle introduit, qui permet de franchir le seuil linguistique et culturel qui sépare la famille Salish de la famille Athapascan. Alors, rappelons très brièvement le raisonnement, qui est l'aboutissement, d'une longue démonstration. Mais donc, dans ce raisonnement de Lévi-Strauss, nous avons une version Thompson, qu'il résume ainsi, boisson désirée par la femme, obstacle mis par l'homme. Passons au cœur d'Alene, boisson désirée par l'homme, obstacle mis par la femme. Et enfin, le troisième groupe de langue Salish, bain désiré par l'homme, obstacle mis par la femme. Alors, du point de vue de la symétrie, on s'attendrait à trouver la permutation qui manque, à savoir bain désiré par la femme et obstacle mis par l'homme. Alors que ce n'est pas du tout ce qu'on trouve. Au lieu de cette permutation attendue et qui semblait aller de soi, lorsque l'on passe au Chilcotin et qu'on franchit ce seuil fatidique des Salish aux Athapascans, on trouve une version doublement tordue. Et là, je cite Lévi-Strauss dans Histoire de Lynx. Alors, il dit « Au lieu que la femme désire un bain pour elle-même, elle veut l'imposer à son fils, et c'est lui qui refuse. Or, un bain voulu par et pour soi, malgré l'autre, est la contradictoire d'un bain voulu non par et pour soi, mais pour l'autre qui n'en veut pas. » Fin de citation. Mauro Almeida a publié il y a quelques mois une interprétation tout à fait remarquable de la formule canonique. Il y insiste en particulier que cette formule est entendue par Lévi-Strauss comme devant porter non pas sur des syntagmes, c'est-à-dire des rites ou des mythes individualisés, mais plutôt sur des paradigmes. Et je cite Mauro Almeida ici, qui dit, c'est-à-dire pour mettre en rapport des objets culturels appartenant à des ensembles discontinus, au lieu de continus. Et pour l'appuyer, Mauro Almeida cite ce passage inéquivoque d'une lettre de Lévi-Strauss datée de 1994 et publiée en anglais par Pierre Maranda, où il dit,
Je cite en anglais.
The variant that comes last, the fourth member of the formula, stems from an event that occurred in time, overriding cultural or linguistic borders, borrowing from foreign audiences, etc., etc. C'est dans Pierre Maranda, et essentiellement, vous l'avez compris, il y est question d'un événement qui s'est produit dans le temps, n'est-ce pas ? Et qui non seulement s'est produit dans le temps, mais qui s'est produit en passant un seuil linguistique et culturel. L'interface, là je fin de citation, je reviens. L'interface est donc le lieu privilégié de la formule canonique, et réciproquement, la formule canonique est l'opérateur du passage qui permet de s'extraire d'un corpus mythique d'un ensemble de sociétés données pour passer à celui d'un autre ensemble. Au moyen d'une déduction transcendantale, comme le signale Almeida, on saute dans le vide pour retomber sur ses pieds ailleurs. Mais cet ailleurs est événement historique au sens plein du mot. Il a lieu dans le temps. An event that occurred in time. On peut encore ignorer dans l'état actuel de nos connaissances où, quand et comment il s'est produit. Mais par définition, il a eu lieu. À d'autres disciplines d'en démontrer les cheminements. Et Lévi-Strauss de soulever l'hypothèse vraisemblable d'une communication bien plus intense et sans doute plus ancienne que ce que l'on a pu croire entre peuples du continent américain. Ce qui l'autorise, par exemple, à renouveler à plusieurs reprises l'affirmation dont Marie Mosé a parlé, l'affirmation qui, au premier abord, est incongrue, que le mythe des jumeaux disparates est disséminé dans les deux Amériques, par exemple que le moine cordelier Thévet en a recueilli une version Tupinamba au XVIe siècle, et qu'il est également attesté par le père Arriaga au Pérou, également à la fin du XVIe siècle. C'est surprenant. Mais c'est justement fondé sur cette idée, disons, d'une certaine façon de diffusionnisme. Donc la double torsion de la formule canonique qui permet de passer un seuil assure non seulement la diffusion hors d'une zone linguistique et culturelle, mais, pour Lévi-Strauss, elle peut encore être à même de renouveler la vigueur d'un mythe qui s'épuise. Ce double saut périlleux est donc tout le contraire du diffusionnisme à l'ancienne. Celui-ci s'imaginait à la façon des vagues successives et isomorphes que provoque un galet lancé dans l'eau. À mesure que ces vagues s'éloignent de leur point de départ, elles perdent de leur netteté initiale et s'estompent jusqu'à devenir imperceptibles. Ici, au contraire, passé le seuil, il n'y a plus d'isomorphisme. Les emprunts sont par définition tordus, et ce, doublement. D'une part, ils se démarquent de leur source par ce saut qui les altère. D'autre part, ils s'altèrent de par les injonctions à la fois culturelles, écologiques et symboliques, et par l'obligation qui leur est faite de s'intégrer en système. Là, je crois qu'il n'est même pas besoin de rappeler, tant cela va de soi, que la diffusion d'un trait culturel ne se fait pas de façon amorphe. Et je reprends un texte que mes prédécesseurs ont également mentionné, mais un autre passage, dans le dédoublement de la représentation dans les arts de l'Asie et de l'Amérique, Lévi-Strauss dit explicitement, cette diffusion ne saurait être celle de détails, de traits indépendants voyageant chacun pour son compte, se décrochant à volonté d'une culture pour venir s'agréger à une autre, mais d'ensembles organiques où le style, les conventions esthétiques, l'organisation sociale, la vie spirituelle sont structurellement liées. Donc, que ces choses, enfin, que cette diffusion soit sous la contrainte de s'organiser en système partout où elle se fixe, cela va de soi. Mais c'est sur autre chose que je voudrais insister. C'est qu'il faut un flair véritablement policier pour les reconnaître. Je crois que Philippe en a parlé, a évoqué cette habileté extraordinaire qu'a Lévi-Strauss de nous faire suivre un cheminement qui va de soi une fois qu'il est fait, mais qu'aucun autre n'aurait pu inventer ou reconstituer. À l'inverse d'un affaiblissement directement proportionnel à leur distance, c'est-à-dire culturel, spatial ou temporel, donc à leur distance de la source, le passage du seuil permet souvent, dit Lévi-Strauss, on l'a vu plus haut, de retrouver une vigueur qui se perdait. En somme, sans événements sur lesquels la pensée n'a pas de prise préalable, à savoir les contingences historiques du peuplement des Amériques, il n'y aurait pas de diffusion. Mais réciproquement, sans les ressorts de la pensée, il n'y a pas de conservation à l'échelle continentale de schémas idéologiques fondamentaux. Je veux bien entendu parler de la célèbre idéologie bipartite et boiteuse, ou accueillante envers autrui, comme on voudra, que Lévi-Strauss propose de façon particulièrement explicite dans Histoire de l'Ex. Cette idéologie bipartite, Lévi-Strauss l'établit par abduction, une méthode que Peirce avait déjà montré être propice aux énigmes policières. Je parle bien entendu, je fais allusion bien entendu ici à la déclaration de Lévi-Strauss que la potière jalouse est au fond modelée sur un roman policier. Il se veut une espèce de roman policier. Donc, cette méthode d'abduction est congrue à ce style roman policier que Lévi-Strauss adopte pour ses deux dernières mythologiques, et dont la preuve en sera le rendement. Je voudrais vous en donner un exemple ici. Et cet exemple est celui des jumeaux, qui ont partie liée avec l'histoire de Lynx. Et pour cela, je vous renvoie à nouveau au chapitre 3 de Myth and Meaning, dont je vous ai donné le titre, et qui parle explicitement de jumelage et d'histoire de Lynx. Mais, donc, le thème des jumeaux, je l'introduirai ici par une de ces contingences, mais cette fois de ma propre biographie. Lévi-Strauss m'a accepté dans son séminaire parce que je venais des mathématiques. Mais alors que je rentrais au Brésil, il m'a encouragée à faire du terrain. Quoique la naissance de mon premier fils rendit ce programme peu commode. Quelques années plus tard, Lévi-Strauss accepta d'être mon directeur de thèse. Je lui proposais comme sujet de thèse la gémellité, un thème qui m'avait intéressée chez les Crao, groupe G du Brésil central. Cette thèse n'avança pas d'un pouce et je ne l'écrivis jamais. Mais lorsque parut l'histoire de Lynx en 1991, l'intérêt que je portais au thème de la gémellité chez les Crao trouva où s'appuyer. J'avais discuté autrefois, c'est-à-dire en 1978, dans mon livre sur les conceptions de la personne et les coutumes funéraires Crao, deux institutions qui me paraissaient remarquables, le compagnonnage et l'amitié formelle. Logiquement, ces deux institutions me paraissaient liées, l'une étant l'antithèse de l'autre. Les compagnons sont l'équivalent de jumeaux parallèles ou identiques. Ce sont les enfants, par exemple, qui naissent le même jour, quoique, paradoxalement, pas les vrais jumeaux. Les deux garçons qui ont fait office en même temps de chefs de moitié opposés de novices, ce sont également des compagnons. Les deux filles qui, en même temps, leur sont associées. Les chefs de moitié au cours d'une même saison, etc. Dans le dualisme Crao, qui se présente sous une forme diamétrale quasiment excessive, tout se dédouble et ceux qui occupent simultanément des charges symétriques sont dits compagnons, iquonon. Littéralement, ça veut dire mon compagnon. Ils sont censés partager les activités les uns des autres. Chez leur voisin Canella, Nimuendaju a écrit que pour établir un rapport d'iquonon, le mot est le même chez les Crao et les Canella, des amis plongent ensemble et nagent enlacés dans la même direction. À l'inverse, on peut établir des rapports qu'on appelle d'amitié formelle chez les mêmes Canella en se tournant le dos et en plongeant et nageant dans des directions opposées. L'amitié formelle, en effet, est essentiellement une relation d'évitation ou de respect, ces deux termes s'équivalent dans ces sociétés. Assortie d'une relation à plaisanterie envers tous les proches de l'ami formel. Elle s'établit surtout chez les Crao et les Canel par des noms propres qui sont appariés. J'en avais conclu que l'ami formel, à l'époque, n'est-ce pas, que l'ami formel est en quelque sorte l'autre par excellence, l'antonyme si on veut. Autant le compagnon fait figure de jumeaux identiques, autant l'ami formel fait figure de jumeaux disparates. Reste que la part dévolue à l'ami formel, aussi bien dans la mythologie que dans le rituel, et même en cas de crise, est autrement plus importante que celle tout à fait négligeable réservée au compagnon. L'ami formel est considéré comme ayant une solidarité maximale envers celui que, par ailleurs, il est tenu d'éviter même très soigneusement, il ne peut pas lui adresser la parole directement, par exemple. Lorsqu'un Crao se fait attaquer par des guêpes, par exemple, son ami formel doit subir à sa suite la même épreuve. Et bien sûr, lune et soleil sont dans le mythe ami formel. Lune, comme d'habitude, et je crois que Carlo en a donné un très bon exemple, lune est un trickster qui bouleverse la création du soleil, qui introduit la maladie, la mort, tous les maux, mais par là même, il introduit aussi le mouvement. C'est un thème aussi que Carlo a soulevé. Ce rapport d'amitié formelle est traduit en portugais comme compadrio, compérage. Or, dans le catholicisme populaire, ce rapport est marqué par un profond respect et on dit couramment en Amazonie que le lit le plus chaud de l'enfer est réservé à ceux qui couchent avec leurs commères. À tel point, racontent les missionnaires, qu'un homme hésitait à baptiser son enfant en danger de mort pour ne pas se voir interdire de coucher avec sa propre femme, que le baptême rendrait sa commère. Vous voyez que c'est donc, en traduisant l'amitié formelle par compadrio, c'est avant tout la relation d'évitation que l'on cherche à rendre. À défaut de lier ces institutions à une théorie américaine de la gémellité que Lévi-Strauss n'avait pas encore énoncée, j'avais été conduite à l'époque à insérer ces données dans une approche psychologique de la construction de la personne qu'aujourd'hui je renierais certainement. À la suite de Histoire de Lynx, j'ai perçu que compagnonnage et amitié formelle étaient justement une des transformations, un exemple de la coexistence d'un dualisme diamétral statique avec une formule dynamique introduite par un déséquilibre entre jumeaux. L'importance de l'amitié formelle dément en quelque sorte l'apparent dualisme diamétral et équilibré sous lequel les Crao s'affichent volontiers. Ici aussi, Lévi-Strauss avait vu juste. D'abord, en se posant la question, les organisations dualistes existent-elles ? Et en montrant très tôt que sous le dualisme diamétral était tapis quelque chose d'autre qui le déséquilibrait. Et puis ensuite, en percevant dans son cours de 68-69, c'est ce qu'il affirme d'ailleurs dans son avant-propos à l'histoire de Lynx, le rapport entre la mise en question du dualisme diamétral et la gémellité dans le continent américain. Je veux donc, par cet exemple, montrer la fécondité de l'approche de Lévi-Strauss, chez qui, de façon tout à fait unique, et c'est là une des singularités de l'histoire, conflue à la fois le flair policier, l'esprit d'analyse, l'esprit de synthèse et l'esprit tout court. Je vous remercie.